Avec vous, Catherine Potet, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche. À la une, Le Monde, face à une nouvelle page de son histoire.
Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine, chercher l'erreur. En fait, il n'y en a pas, nous dit le Nouvel Obs. Le 47e président des États-Unis a rejoint la liste des dirigeants qui veulent renverser l'ordre international, constate Pierre Aski dans son éditorial. Et il précise, les États-Unis, la Chine et la Russie, grandes puissances nucléaires, sont déterminés à abattre un ordre mondial dont ils sont censés être les garants en tant que membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Les autres membres permanents, la France et le Royaume-Uni, sont bien solitaires pour défendre l'idée du multilatéralisme et celle d'un monde fondé sur le droit et non sur la force. Une inquiétude à laquelle fait écho celle de Marion Van Rentergem dans l'Express. Ça y est, dit-elle, les États-Unis de Trump nous ont quittés. Nous, c'est l'Occident dans sa définition politico-culturelle et non géographique. Elle aussi évoque l'attachement à la démocratie libérale, à la primauté du droit sur la force et au multilatéralisme.
Dans ce contexte, la presse s'interroge sur l'avenir de l'Europe.
Ni Poutine, ni Trump, allez l'Europe, lance dans la tribune dimanche François Clémenceau qui s'interroge. Comment l'Europe doit-elle gérer Trump? Il ne s'agit pas, explique-t-il, d'avoir une position sur l'absence totale de valeur du monde de Trump, ni de débattre de la cruauté absolue de Poutine. La cohésion des Européens doit se bâtir autour de la défense de ce que nous sommes et du rôle que l'on veut jouer aux yeux du reste du monde. Trump va-t-il nous écraser? Ajoute Le Point qui se demande pourquoi la France et l'Europe se laissent faire. Le Point qui juge durement le fonctionnement de l'Union Européenne et ses 27 autorités financières différentes, 27 systèmes de défense, 27 droits du travail. Le prix Nobel d'économie Jean Tirole n'est pas plus optimiste. Interrogé par Le Point, il estime que l'Europe court le risque de devenir un acteur secondaire, voire de sombrer dans un rôle de figurant. Deux options s'ouvrent à nous, ajoute-t-il, réagir ou subir, que ce soit face à la Russie, dans les négociations sur le climat ou pour se défendre contre le protectionnisme des autres. L'Europe devrait, estime le prix Nobel, jouer un rôle majeur. Ne pas agir serait dramatique.
Dans la presse hebdomadaire également, un reportage en Ukraine sur des combattants particulièrement motivés.
Très motivés, malgré leur âge, car ces combattants qui se font appeler les loups des steppes sont des seniors volontaires. Les retraités montent au front, s'exclame Le Point. Certes, ils ne sont pas très nombreux, 16 pour le moment, mais les demandes pour rejoindre le groupe affluent, explique l'hebdomadaire qui dresse leur portrait. Théoriquement inaptes à l'armée en raison de leur âge avancé ou d'un handicap, mais ne pouvant se résoudre à regarder leur pays se faire détruire. Ces hommes ont rejoint l'unité d'Alexandre, un blessé de guerre de 67 ans qui préfère que les vieux se sacrifient plutôt que les jeunes qui pourraient être ses petits-enfants. Alexandre explique ainsi, si quelqu'un de plus de 60 ans veut se battre, pourquoi ne pas l'accepter? Il ne peut sans doute pas tout faire. Fantassin, c'est difficile, mais officier ou affecté à des tâches spécifiques, c'est possible. Il faut préserver les jeunes. Les Européens, demandent-ils, accepteraient-ils d'envoyer leurs enfants à la guerre? Alexandre, qui avec ses collègues n'hésite pas à mettre la main à la pâte devant l'envoyé spécial du Point, ils s'en vont avec un van chargé de roquettes tirées avec succès sur une position russe, signe que la guerre ne leur fait pas peur.
Enfin, Catherine, nous ouvrons le magazine Society.
Pour évoquer le phénomène de l'afterwork, l'après-travail, cet événement officieux, nous dit Society, qui parle d'un sas de décompression fédérateur des équipes devenu un incontournable des entreprises et qui nous offre un rapide tour du monde sur la question. Le cas le plus connu est celui du Royaume-Uni où dès 19h, les pubs grouillent d'employés de bureau et de patrons aux cravates flottantes et cols de chemise déboutonnés. Au Japon, rendez-vous dans les izakaya, sorte de bar à tapas pour partager une bière et un verre de saké. L'afterwork au Japon est, nous dit Society, un moment crucial de décompression. Enfin, les pays du nord de l'Europe offrent une version encore plus décontractée. Faire des affaires, nu comme un verre sur un banc de sauna avec son ou sa chef n'a rien de surprenant, explique Society. Encore faut-il ne pas avoir froid aux yeux.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup.